Timothée, le plus jeune. Ce père de famille gérait une grande exploitation agricole. Il possédait de grands champs de céréales, plusieurs tracteurs, des machines, des bâtiments. Il employait plusieurs dizaines d'ouvriers. Jacques et Timothée travaillaient aussi dans les champs. Leurs parents, monsieur et madame Berger, leur avaient inculqué le sens du travail dès le plus jeune âge. Plus tard, ce seront eux qui géreront l'exploitation agricole familiale. Un jour, le plus jeune des fils alla voir ses parents pour leur faire part d'un projet particulier. « Papa, maman, vous savez que je ne suis pas doué pour le travail que vous me demandez de faire. J'aimerais trouver un travail qui me convient mieux. J'aimerais trouver ma vocation et je ne pense pas que ce soit dans l'agriculture. » Monsieur Berger regarda son fils Timothée d'un long moment et lui demanda « Et que souhaites-tu ? J'aimerais partir découvrir le monde, changer d'air, réfléchir, répondit-il. Vous m'avez ouvert un compte d'épargne dès ma naissance. J'aimerais utiliser cet argent pour voyager. » Madame Berger, très inquiète, regarda son mari d'un air insistant. Simon, écoute, ne lui réponds pas tout de suite. Discutons-en ce soir. Prenons le temps de réfléchir. Monsieur Berger n'hésita pas un instant. Sarah, il est adulte. Il n'a pas besoin de notre autorisation. S'il veut partir, c'est son choix. Puis il se tourna vers son fils. Cet argent est à toi. Tu es majeur. Fais ce que tu veux. Timothée fut étonné de la réaction de son père qui accepta son départ si facilement, si rapidement. Il fut encore plus étonné de la réaction de sa mère qui pleura toute la journée et toute la nuit. Les jours qui précédaient son départ furent étranges. Son père paraissait détaché, alors que sa mère paraissait soucieuse. Quant à son frère, Jacques, il était en colère. Cela me fera beaucoup de bien de m'éloigner de cet endroit si anxiogène, se dit Timothée. Le jour du départ fut bref. Tout le monde s'y était préparé. Timothée était soulagé de s'éloigner de sa famille qui lui causait beaucoup de stress. Entre le détachement de son père, l'inquiétude de sa mère, la colère de son frère, il se sentait bien angoissé à la ferme familiale. Il prit l'avion pour l'Amérique du Sud, sa première destination. En effet, il comptait faire le tour du monde pour découvrir autre chose et réfléchir à son avenir. Malheureusement, dès la première semaine, il se retrouva dans une situation accablante. Il tomba malade, alors qu'il se trouvait dans un village reculé, loin des hôpitaux. Il développa une forme grave de la maladie et fut alité pendant plusieurs jours. Les villageois l'amenèrent dans un centre médical de campagne. Il ne fut pas en état d'être transporté, étant donné l'état des routes. Timothée dut dépenser de grosses sommes d'argent pour faire venir les médicaments de la ville. Il fallait payer des coursiers. Plusieurs jours passèrent et son état ne s'améliorait pas. Au contraire, sa santé se dégradait jour après jour. Il devait absolument se rendre à l'hôpital. Alors, il dépensa tout ce qui lui restait d'argent pour payer un hélicoptère, en espérant que les assurances qu'il avait prises avant son départ pouvaient lui rembourser les sommes avancées. Une fois à l'hôpital, il fut mieux soigné. Une dizaine de jours après, il fut assez en forme pour sortir, mais il n'avait plus d'argent. Il s'était fait rembourser ses billets d'avion pour payer l'hôpital. Affaibli et démoralisé, il décida de rentrer en France seulement un mois après son départ, alors qu'il avait prévu 12 mois de voyage. Il dut même faire un emprunt pour payer son voyage de retour. De retour en France, Timothée fit les démarches pour se faire rembourser ses frais d'hospitalisation à l'étranger. Il avait pris les assurances pour cela. Malheureusement, les assurances refusèrent toutes de le rembourser. Soit les factures n'étaient pas aux normes, soit les soins n'ont pas été dispensés dans des centres agréés. Timothée était trop affaibli pour travailler. Il était aussi démoralisé, seul, endetté. Il décida de retourner chez son père, avec l'intention de s'engager à travailler dur pour lui, dès qu'il sera en meilleure forme. Ce matin-là, Madame Berger était à la fenêtre de sa chambre quand elle aperçut son fils au loin. Son cœur se mit à battre à toute vitesse et elle eut des vertiges dans ses émotions plus fortes. Elle n'était pas capable de descendre pour retrouver son fils, mais elle entendit la conversation avec son mari. Papa, je suis tombée très malade, je n'ai plus d'argent. J'ai tout dépensé pour les soins en Amérique du Sud. Acceptes-tu de me reprendre à la maison? Je travaillerai très dur pour rembourser mes dettes. Monsieur Berger fit un sourire et répondit à son fils. Tu te moques de moi? Tu oses revenir alors que tu es parti avec 20 ans d'économie? En seulement un mois, tu as dépensé 25 000 euros que ta mère et moi avons mis de côté au cas où tu souhaiterais faire des études ou quelque chose d'intelligent. Tu as voulu partir car tu ne te sentais pas bien ici. Et maintenant que tu n'as plus d'argent, tu veux revenir. Tu n'as jamais aimé travailler pour moi. Et maintenant, tu veux travailler. Écoute, Timothée. Tu as voulu partir pour réfléchir. Je te laisse réfléchir, mais pas chez moi. Adieu. Le jeune Timothée, bouleversé, repartit sous le regard méprisant de son père et de son frère. Il n'eut même pas l'occasion de voir sa mère. Il décida de prendre la direction de la ville, en stop, en espérant trouver de l'aide. Madame Berger avait entendu toute la conversation. Elle fut dévastée. Si elle était si mal en voyant son fils par la fenêtre, c'est parce qu'elle redoutait précisément cette réaction-là de son mari. En effet, Monsieur Berger avait toujours dit qu'il ne supporterait pas que l'un de ses fils quitte la maison pour dépenser l'argent de manière futile. Pour lui, faire le tour du monde pour réfléchir, c'était irresponsable et irrespectueux. Pour Monsieur Berger, un fils devait honorer le travail de ses parents et non le mépriser. Afin de motiver ses fils à travailler, il offrait chaque année une fête à celui qui travaillait le plus, le plus rapidement et le plus efficacement. Jacques, le fils aîné, gagnait toujours cette compétition. La fête était toujours pour lui. Les deux frères étaient toujours en concurrence, ce qui les rendit distants l'un de l'autre. Même si elle n'a n'appréciait pas toutes ces méthodes d'éducation, Madame Berger était d'accord avec ses valeurs. Mais ce jour-là, elle trouvait que son mari réagissait de manière démesurée. Elle aurait été d'accord qu'il se mette en colère, mais refuser de l'aide à son fils, c'était trop excessif. Lorsqu'elle se remit de ses émotions, elle alla parler avec son mari qui travaillait dans les champs. Simon, qu'est-ce qui te prend? Que tu te mettes en colère, je peux comprendre. Mais tu as trop loin en fermant la porte à ton fils, en le rejetant. On était d'accord sur les valeurs inculquées à nos enfants, Sarah. Il incarne tout ce que j'ai toujours détesté. Mais c'est notre fils, répondit Sarah. Où est ton cœur, Simon? Tu rejettes notre propre fils. On ne peut pas lui faire ça. Avant de le retrouver, discute-moi avec lui. Reste fâché contre lui si tu veux. Fais-le travailler jour et nuit, mais qu'il revienne à la maison. Ce n'est plus mon fils, répondit M. Berger, tout en continuant à travailler dans les champs. Je ne te reconnais plus, dit Sarah. Moi, je vais le chercher. Très bien, va le chercher. Mais ne reviens pas, toi non plus. Madame Berger prit son sac, sa voiture, et partit à la recherche de son fils en ville. Mais en vain. Son téléphone était désactivé. Elle ne pouvait pas le joindre. Elle parcourut toutes les rues de l'agglomération, jusqu'à la tombée de la nuit, sans succès. Si Timothée était si difficile à trouver, c'est parce qu'il n'était plus dans la rue. Il était en train de faire la queue au SAMU social, dans un centre d'hébergement pour les sans-abri. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais Timothée était le dernier arrivé et l'attente était longue. En effet, l'homme à l'accueil prenait du temps pour être à l'écoute de chaque situation. Après une bonne dose de patience, le tour de Timothée arriva. « Bonsoir, monsieur, » dit le bénévole à l'accueil. « Je m'appelle Jules. Expliquez-moi un peu votre situation. » Timothée expliqua brièvement son histoire. La bienveillance et l'écoute de Jules lui apportèrent beaucoup d'apaisement. Nous allons maintenant remplir votre dossier, dit l'homme à l'accueil. Quel est votre nom de famille? Berger, répondit Timothée. Jules fut secoué par ce qu'il venait d'entendre. Comment? Berger, répéta-t-il. Vous avez dit que votre père gérait une grande exploitation. Comment s'appelle-t-il? Simon Berger, répondit Timothée. Pourquoi? Vous le connaissez? Attendez deux minutes. Je reviens, répondit le bénévole. Jules sortit de la pièce et alla prendre l'air. Des larmes commençaient à couler de ses yeux. « Je l'ai retrouvé, » dit-il. « Je l'ai retrouvé. » De retour à l'intérieur, Jules ne put cacher ses émotions. « Que vous arrive-t-il ? » demanda Timothée. « Ce que je vais vous apprendre va certainement te bouleverser, Timothée. Mais je dois te le dire. » Timothée fut étonné de ce changement de ton. Des pleurs, le tutoiement, qu'est-ce que cela signifie? Les réponses ne tardèrent pas à arriver. Je m'appelle Jules Berger. J'ai grandi dans une ferme au nord de la France. Lorsque j'avais ton âge, j'ai demandé ma part d'héritage à mon père. Et j'ai quitté la maison. Je n'ai pas donné de nouvelles à mes parents pendant des mois et des mois. J'ai tout dépensé. J'ai fait des bêtises. J'ai dilapidé l'argent de mes parents et je me suis retrouvé à la rue. Je suis donc retourné chez mon père et à ma grande surprise, il m'a reçu les bras grands ouverts. Il a même fait une fête car il m'avait retrouvé. Il n'y a jamais eu une aussi grande fête à la maison. C'était un jour merveilleux. Mais le lendemain fut un triste jour. Mon frère était en colère. Lui qui était toujours à la ferme pour aider mon père, il n'avait jamais eu de fête. Il en a voulu à mon père de m'avoir accueilli si généreusement. Il est donc parti, lui aussi, avec son héritage, fâché contre toute ma famille. Et il n'a plus jamais donné de nouvelles. Plus jamais. Je l'ai cherché pendant des années, mais il existe des centaines de signaux bergers dans toute la France. Et je suppose qu'il s'était mis sur l'île Rouge. Je ne l'ai jamais retrouvé. Aujourd'hui, je me retrouve devant toi, son fils, mon neveu. Si ton père t'a rejeté si violemment, j'imagine que c'est parce que tu le fais penser à moi. Ce qui t'arrive est un peu de ma faute. Timothée n'en croyait pas ses oreilles. Son père lui avait toujours dit, qu'il n'avait ni frère ni sœur. Et ce soir, il apprend qu'il a un frère. Timothée était encore sous le choc lorsque la porte du centre s'ouvrit. C'était sa mère. Timothée, mon garçon, je t'ai cherché dans toute la ville. Je suis si heureuse de t'avoir retrouvé. Viens, tu n'as pas besoin d'être resté ici. Je te ramène à la maison. Maman, excuse-moi de ne pas avoir donné de nouvelles. J'ai été très malade. Ensuite, mon abonnement téléphonique a coupé. J'ai pensé à vous tous les jours. Viens, mon fils. Tu me raconteras tout ça à la maison. Je te ramène en voiture. Attends, maman. Ce n'est pas un hasard si il m'est arrivé tout cela et si je suis arrivé ici ce soir. J'ai rencontré ce monsieur Jules. Il a des choses à t'apprendre. Jules raconta toute son histoire à Madame Berger. Ils passèrent tous les trois la nuit à discuter et à échanger jusqu'à l'aube. Lorsque le soleil se leva, Jules finissait son service. Madame Berger, Timothée et Jules décidèrent de retourner ensemble à la ferme familiale pour parler à Monsieur Berger. Lorsqu'ils arrivèrent, Monsieur Berger et son fils aîné étaient en train de travailler dans les champs. Nos trois personnages allèrent le rejoindre. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Grommela Monsieur Berger. Je vous demande de partir, de ne plus revenir, et vous revenez à trois. Qui est-ce que vous me ramenez ? Simon, c'est moi. Tu ne me reconnais pas ? C'est moi, Jules, ton frère. Monsieur Berger se retourna et fit semblant d'ignorer ce qu'il venait d'entendre. Il se dirigeait lentement vers son fils aîné à travers les champs. Tu m'en veux toujours ? Demanda Jules. Monsieur Berger s'arrêta un long moment, puis se retourna. Son regard montrait à la fois de la colère et de la tendresse. J'ai travaillé nuit et jour pour papa, dit Monsieur Berger. Lorsque tu es parti t'amuser pendant des mois, c'est moi qui faisais ton travail. J'ai travaillé comme un esclave pour papa. Et c'est pour toi qu'il a fait la fête. Ce n'est pas toi qui lui obéissais comme un ouvrier obéit à son maître. Ce n'était pas toi qui qui respectait toutes les règles des employés à la lettre. J'ai tout fait pour gagner son amour, mais c'est pour toi qu'il a fait la fête. Est-ce digne d'un bon père? Tu as tout fait pour gagner son amour, demanda Jules. Mais tu n'avais rien à faire pour gagner son amour. Il ne t'a jamais demandé de travailler comme un employé. Tu as donc utilisé le travail pour chercher une place d'honneur. Mais la place d'honneur, tu l'avais déjà. Tu es son enfant, pas son ouvrier. Il est ton père, pas ton maître. Alors j'aurais simplement dû demander le fait, comme toi, répondit M. Berger. Il me l'aurait accordé. Tu nous avoues l'homme et tu as le droit à une fête. Tu trouves cela juste? Tu en veux à papa d'avoir été généreux? Dit Jules. Bien sûr que non, je n'ai pas trouvé cela juste. Mais cela me faisait tellement plaisir. Moi, je n'ai jamais rien demandé. Si, j'ai demandé quelque chose. J'ai demandé qu'il me traite comme un esclave. J'ai demandé à le servir comme s'il était mon maître. Je me suis agenouillé, la tête contre le sol devant lui, pour lui demander pardon. Je lui ai dit, « Papa, je ne suis pas digne d'être accueilli comme ton enfant. » Alors, traite-moi comme un de tes ouvriers. Mais papa m'a relevé. Et il me l'a dit. Je suis si content de te voir. Ton retour me comble de joie. Viens, mon enfant. Rentre à la maison. Nous allons tous nous réjouir, car tu étais perdu. Mais maintenant, tu es retrouvé. Monsieur Berger ne savait plus que dire. Son regard se tourna vers son fils préféré. Son fils aîné, travaillait dans les champs et qui n'avait aucune idée de ce qui se passait. Il se demanda s'il aimait son fils parce qu'il travaillait bien ou simplement parce que c'était son enfant. Puis il regarda son fils cadet qui le fixait lui aussi. Timothée espérait un signe d'affection de la part de son père. Jules reprit. Papa serait si heureux de te revoir. Monsieur Berger le regarda à nouveau. Papa est encore en vie. Papa est encore en vie. Oui, répondit Jules. Notre père est vivant. Il t'aime. Et je suis sûr qu'il t'accueillera des bras grands ouverts. Notre histoire s'achève ici. Elle est inspirée de la parabole de l'homme et de ses deux fils. Et dans cette parabole, nous ne connaissons pas la réaction de ce monsieur Berger. Alors le texte reste ouvert aussi à notre réflexion. Alors vous retrouverez cette parabole que j'ai un peu modifiée dans Luc, au chapitre 15. Je vous invite maintenant à la prière. Notre Père, merci parce que tu es aujourd'hui encore vivant et tu nous accueilles et tu accueilles chacun de tes enfants les bras grands ouverts. Aide-nous à te servir comme un Père. Savoir que nous sommes tes enfants et à ne pas être jaloux de ta générosité envers les autres. Aide-nous à venir à toi avec humilité. Aide-nous à nous agenouiller devant toi, à nous humilier devant toi. Et nous savons que tu me relèveras, que tu nous relèves, et que tu relèveras tous ceux qui viennent à toi avec cet esprit d'humilité. Merci pour ta générosité envers nous, envers tous. Aide-nous à continuer de découvrir ta grandeur. Merci parce que tu es comme un père pour nous. Et tu attends encore beaucoup d'enfants qui viennent.